Aujourd'hui, on aborde donc le trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze. Donc vous savez qu'il a été écrit en 1498, donc il a été écrit à la demande de Giuliano Salviati, gonfalonier de justice, dans la dernière seigneurie favorable à frère Jérôme en janvier-février 1498. Après, ça va très vite, hein. Il y a la seigneurie donc de mars-avril et on est dans les tempêtes liées à l'épreuve du feu, l'échec de l'épreuve du feu, l'attaque de San Marco, etc. Donc on est vraiment quelques mois avant la clôture de cette expérience hein, du rôle joué par Savonarole à Florence. Donc vous vous souvenez des circonstances, depuis le 4 mai 1497, frère Jérôme avait cessé de prêcher depuis les troubles qui se sont déroulés le jour de l'ascension, le 4 mai 1497. Et là, il y a une période assez longue, hein, jusqu'au 11 février 1498, où il remonte en chair. Vous rappelez également que Alexandre VI avait excommunié à ce moment-là Savonarole en mai 1497. Hein, voilà. Donc, alors, c'est quand même une période pendant laquelle c'est la dernière seigneurie pro-savonarolienne, celle de Giuliano Salviati, mais pendant pratiquement 8 mois, là, il a des seigneuries où il y a une majorité de Piagnoli, hein, de juillet 97 et précisément à février 98, la dernière. Mais vous rappelez également qu'il y a cette borne importante, borne qui a été soulignée par Machiavel, etc., dans les discorsi, mais également par Guicciardini, par tous les témoignages qui nous restent, la condamnation à mort et l'exécution au mois d'août 97 des 5 chefs médicéens, dont Bernardo del Nero, ont marqué la fin d'une alliance possible, hein, d'une alliance de fait, en tout cas d'une non-agression de fait entre Piagnoni et Biggi. Hein. Voilà. Alors, tout au long de cette période donc de silence du point de vue des prédicats, du point de vue des sermons, il y a une série d'écritures de Savonarole, des libelles, des lettres apologétiques, des argumentaires contre la curie, etc. Et il écrit pendant cette période le Tractatus de Vitae Spiritualis Perfectione. L'épistola aux frères de San Domenico de Bologne, l'épistola aux sœurs du couvent d'Annalena, il fait publier le Triumphus Crucis, il fait publier le Trattato con gli Astrologi, et il écrit et fait publier le texte dont nous allons parler immédiatement. Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze, qui sera édité immédiatement l'une chez Bartolomeo del Libri, qui est un des imprimeurs Piagnoni, hein, chez qui publie l'essentiel des textes qui viennent de Savonarole et des Dominicains. Et puis il y a une autre édition faite par, voilà, je n'en sais pas plus que le nom, la Compagnia del Drago. La chose importante, c'est de savoir que là, ça fait partie des textes relus, corrigés par Savonarole, c'est-à-dire pas des textes qui ont été noté par des gens et publié ultérieurement sans que lui ait pu vérifier la précision du texte. Là il a donné les manuscrits, corrigé les épreuves, etc. Bon, voilà. Voilà. Alors, Un point important qu'il faut avoir dans l'idée pour situer la réalité politique de ce moment-là, c'est que en 1498, les deux sermons dont je vous ai déjà parlé, qui sont les sermons politiques de 1994-1995, les prediche sopra Geo et les prediche sui Salmi, ne sont pas publiés. Donc il n'y a pas, pratiquement pas, à part la lettre à un ami de 1495, il n'y a pratiquement pas de texte politique, de texte consacré à la question politique de Savonarole qui soit disponible. Pour une raison simple, c'est que tant que la parole de la chair est présente, il n'y a pas besoin de ça. Hein, il n'y a pas besoin de ça. Mais là, il y a besoin parce que précisément, il n'y a plus de parole, depuis la cathédrale, hein, depuis la chaire, etc. Voilà. Donc, voilà la mise en place. Donc, vous avez quand même un processus intéressant, c'est-à-dire que c'est au terme du processus, quelques mois avant l'échec et la mort, qu'il y a comme un retour au début du processus, comme s'il était nécessaire de reconvaincre, hein, de « tornare al principio », pour apprendre une expression beaucoup plus tardive, qui sera celle de Machiavel dans les discours 3-1, hein, tourner, revenir au début du processus. Et vous voyez que ça, c'est hein, dans au moins un autre des trois textes qu'on a à faire, hein, c'est-à-dire le dialogue del Reggimento di Firenze de Guicciardini, vous avez ce processus de retour au début pour comprendre. Hein. Et là, c'est retour aux arguments du début pour essayer de reconvaincre, hein, la justesse du choix qui a été fait. Alors, le Trattato circa Reggimento e Governo in Città di Firenze est donc un texte demandé par les Piagnoni. Dans des circonstances où Savonarole ne peut plus prêcher, hein, est interdit de prédication. Il s'inscrit dans la continuité des trois autres traités que d'ailleurs il cite, hein, dans son Proemium. Et trois autres traités qui illustrent, dit-il, les quatre matières que j'ai sans cesse prêchées parmi vous, hein, et qu'il rappelle avec la formulation suivante: Sforzatomi con ogni mio ingegno di provare la fede essere vera, dimostrare la semplicità della vita cristiana essere somma sapienza. Donc là, c'est les deux textes, hein, Triumphus Crucis pour le premier point, De semplicitate Christiane vite pour le second, denunciare le cose future delle quali alcune sono venute, le altre di corto hanno a venire, de veritate profetiche. E voilà, ultimo, questo nuovo governo della vostra città. Et donc, c'est le point qui reste à traiter et qui sera traité dans le petit traité circa il reggimento e governo della città di Firenze. Alors, le deuxième aspect important, donc, c'est le choix d'écrire ce traité en langue vulgaire. Donc ça, là aussi, les raisons sont clairement explicitées dans le proemio. Hein, donc, d'une part, il y a la thèse, alors très communément présente chez tous les gens qui défendent l'usage du vulgaire, hein, l'usage donc du florentin, du toscan, enfin en tout cas de la langue vulgaire, et ça depuis au moins Léon Baptiste Alberti, c'est l'hypothèse que écrire en vulgaire, ça a pour but, pour fonction, la commune utilita. Hein, la commune utilita. Une langue compréhensible par tous, hein, enfin en tout cas, une langue compréhensible par beaucoup plus de gens, hein, parce que entre ceux qui comprennent le latin et ceux qui savent lire le vulgaire, évidemment, le nombre est beaucoup plus grand de ceux qui savent lire le vulgaire, hein, donc ils laissent l'explicite très 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 simplement. Essendo pochi quelli che intendono il latino a comparazione degli uomini letterati. Hein, voilà, donc trattatello, hein, il donne vraiment le diminutif, hein, l'hypocoristique, hein, un mignon petit traité, donc trattatello, hein, pour brièvement, hein, avec le lien entre che io scriva volgare e brevissimamente. Hein, le lien entre les deux, c'est donc l'hypothèse que ce qui va être écrit là, hein, c'est un texte d'intervention, avec l'hypothèse que son effectivité, enfin, quand écrire c'est faire, en quelque sorte, hein, quand écrire c'est faire. Un texte d'intervention produit d'une situation qui est en effet tendue à l'intérieur de Florence et au moins à l'échelon de l'Italie, enfin, avec pression très grande de la papauté pour se débarrasser de ce frère agité, enfin, voilà. Donc il s'agit de produire un texte qui soit le plus vite possible, qui puisse être le plus vite possible utile à l'ensemble des citoyens, suivant une exigence où on décèle à la fois vraiment une sorte de sentiment d'urgence, hein, l'idée de ce brevissimamente. Ensuite, dit-il, ensuite, on verra, metteremo mano al latino, hein, di poi, quando potrò essere più libero dalle occupazioni presenti, hein, c'est-à-dire jamais, hein. Quand il n'y aura plus cette urgence, des occupations qui viennent de l'urgence de la situation, eh bien, on pourra en traiter plus amplement avec la langue qui permet d'en traiter le plus précisément, c'est-à-dire le latin, l'instrument plus précis, etc., que le vulgare. On décèle ce sentiment d'urgence et on décèle une volonté, hein, une volonté de réexpliquer, de redonner les arguments qui, l'avis général, avaient été ceux qui avaient convaincu les Florentins de mettre en place la nouveauté, hein, le nuovo governo, hein, le nuovo governo. Il faut entendre vraiment une chose nouvelle, une chose jamais, qui n'a jamais existé à Florence. Hein, ouais. Et donc, il spécifie bien, là aussi, là, le proème est d'une grande clarté, hein, très peu de mots. Il explicite l'ensemble de ses intentions. Il traite le cas florentin spécifique, hein, pas du tout du governo dei regni e città in generale, ma particolarmente del nuovo governo della città di Firenze. Dunque, il va traiter uniquement de ce point, et donc son texte va se trouver incontestablement dans un endroit où doivent se retrouver les principes qui naissent d'une théorie politique thomiste. Hein, donc il a derrière lui au moins trois grands textes, dont un est traduit, trois grands textes de la tradition Aristote et saint Thomas, mais la traduction de saint Thomas par un autre dominicain contemporain de Thomas d'Aquin, qui est Guillaume de Morbecque, hein, Guillaume de Morbecque, M-O-E-R-B-E-C-K-E, hein, Guillaume de Morbecque est le traducteur en latin, hein, des huit livres sur la politique d'Aristote. Et c'est à partir de cette traduction en latin par un frère dominicain que Thomas d'Aquin va élaborer son propre commentaire, In octo libros politico, etc. Aristoteles, hein, sur la politique. Hein. Alors donc, on a en gros le texte initial, hein, traduit par un dominicain, donc les huit livres sur la politique, traduit par Guillaume d'Aristote, traduit par Guillaume de Morbecque, le commentaire de Thomas d'Aquin, et puis un texte qui est important pour toute cette tradition, très important, hein, parce que c'est un des textes par lesquels passe cette connaissance d'Aristote et des thèses donc d'Aristote sur la politique, qui est le De Regimini Principum. Hein. Alors, quatre livres sur De Regimine Principum. Voilà. Alors, au moment où Savonarole écrit, évidemment, il a en tête l'ensemble de ses textes, et en particulier le De Regimine Principum, on fera quelques références, hein, même s'il n'y a pas besoin d'être très érudit sur ce point-là, mais enfin, faut savoir qu'il y a ça derrière, hein, il y a ça derrière, et puis en avoir lu quelques brefs passages. À ce moment-là, on pense que l'ensemble de ce texte, ces quatre livres, a été rédigé par Thomas d'Aquin, qui avait fait un texte. On pense que l'ensemble du texte, à ce moment-là, a été écrit pour le roi de Chypre, pour l'éducation du roi de Chypre. Hein. Donc l'autre titre de ce livre, enfin cet ouvrage, attribué à ce moment-là entièrement à Thomas d'Aquin, et donc le De Regno ad Regem Cypri, hein, à propos de la royauté, écrit pour le roi de Chypre. Alors, en vérité, le travail d'édition critique ultérieur a montré que, comme il arrive souvent, c'est-à-dire l'idée de la possession d'un écrit est beaucoup moins grande qu'à partir du moment où il y a les droits d'auteur, simplement. Hein, il y a plus l'idée de la continuation, et vous savez, c'est vrai aussi dans le domaine des arts, hein, de l'atelier, de la continuation des disciples qui continuent une œuvre, ou du maître qui reprend un bout d'une œuvre d'un disciple, aussi bien dans l'écrit que dans l'art. Et donc, en fait, la partie qui revient à Thomas d'Aquin, hein, qu'il a écrit de sa main, est le début du texte, en fait, le livre 1 et les quatre premiers chapitres du livre 2. Voilà ce qu'il a écrit. Ils sont vraiment là sur le régnant, hein, sur la question des régnants, sur la question de la royauté. Et puis ensuite vient un autre frère, qui est un frère qui a pris comme nom de dominicain Ptolomère da Luca, hein, Ptolémée de Luc, quand on le traduit en français, mais donc vous trouverez indifféremment les deux dénominations, mais c'est bon, c'est un frère, en tout cas, qui vit en Italie, donc Ptolomère da Luca, qui a fait la continuation, et c'est relativement intéressant pour nous, parce que il était très, beaucoup plus lié, sans doute, que Thomas d'Aquin à la question, en tout cas, il laisse plus percevoir dans ses textes, dans la partie qui lui revient d'avoir écrit, des éléments sur comment ça fonctionne vraiment en Italie au moment où il écrit, quoi. Hein, au moment où il écrit. Voilà. Bon. Donc, sur... et pour Savonarole, c'est un texte de Thomas d'Aquin. Hein, donc, du coup, il y a des choses qui prend... que des thomistes, des néo-thomistes d'aujourd'hui trouveraient, tu vois, dans des textes, des pseudo-Thomas, du pseudo-Thomas, quoi, un texte ne répondant pas à l'idée de Thomas. Alors, ce qui est sûr, c'est que il va quand même tordre, être amené à tordre un peu, même s'il prend des choses. Même si certaines choses sont déjà chez Ptolomère da Luca, tordre un peu la théorie politique thomiste pour qu'elle puisse fonder une idée de gouvernement telle qu'il existe, telle qu'il espère, lui, qu'elle va continuer à exister. Hein. Donc, un travail. Comment les exigences d'une situation politico-historique obligent à modifier, laisser de côté certains aspects, en prendre d'autres, en mettre en exergue d'autres, etc. Quand on est un thomiste de stricte obédience, c'est un travail. Difficile, mais fait avec aisance par notre Girolamo. Alors, donc là, la construction nettement annoncée, hein, prime, donc trois expositions, vraiment avec une structure digne, hein, digne de la Cagne, enfin, quand même. Alors, bon, on ne fera pas de remarques sur le fait que peut-être la structure de la Cagne vient de la scolastique, mais, hein, oresco référens, ça ressemble, hein, trois parties divisées en trois parties, voilà, ça ressemble, bon. Allez, on va nous dire que non, c'est pas ça du tout. Mais quand même, ça a peut-être un peu à voir. Alors, trois parties, hein, avec dedans chacun trois chapitres. Hein, nel primo, tratteremo dell'ottimo governo in città di Firenze. Secondo, del pessimo governo in città di Firenze. Terzo, noi dichiareremo qualsiasi il fondamento da torre via il governo pessimo e da fondare e far perfetto e conservare il presente buon governo a ciò che diventi ottimo in essa città di Firenze. Oh, donc, voilà, l'ottimo, il pessimo, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pessimo et faire devenir ottimo il buon governo qu'on a déjà. Donc, Bon. Vous voyez assez clairement la structure du texte, hein. Et donc, ce qu'on va essayer de faire en rentrant un peu dans le détail dans le détail du texte, c'est un peu de voir comment le thomiste saisi par l'histoire, hein. J'aimerais vous montrer ça, mais bon, un peu compliqué d'arriver à montrer ça en peu de temps, mais c'est l'idée qu'il y a derrière les balbutiements de ma démonstration, ça sera ça, c'est-à-dire un thomiste saisi par l'histoire. Thomiste qui essaye à la fois de rester, hein, parce que c'est le fondement même de son identité, de dominicain et de religieux, hein, c'est son office. Dans le double sens, de son devoir et l'office qu'il occupe, la fonction qu'il occupe, les deux indissolublement liés. Hein, quand il dit ça, il fait référence très précisément au proème. Enfin, il fait référence, c'est une formule qui revient presque identique dans le proème de Thomas d'Aquin sur le dereño ad regem Cypri, hein, puisque il dit cela est congruum, hein, congruum, donc cela est adapté, comment on dirait ça le mieux, hein, congruum, ouais, c'est adapté, ça fonctionne avec. Mea quae professioni congruum et officio. Hein? J'explique, voilà. Donc, où il y a à la fois ces choix de vie, le devoir, la fonction, etc. Hein, c'est la fonction et le devoir du religieux. Hein? La fonction et le devoir du religieux. Et évidemment, si on avait beaucoup de temps, et si vous aviez beaucoup de temps et pas des tas d'autres questions à voir, etc., il vaudrait la peine d'aller voir dans les textes de fond de Thomas, par exemple, dans la somme théologique, la question qui décrit les activités qui conviennent ou ne conviennent pas aux religieux. Hein? On va essayer de voir. Voilà. Hein, donc, est-ce que le religieux peut s'occuper des choses de la cité ou des choses du royaume? Oui, mais avec modération. Oui, mais par charité, pas par intérêt personnel. Voilà. Hein, des choses qu'on trouve là, c'est essentiellement c'est la morale pratique. Donc, l'essentiel de ces points sont dans la deuxième partie de la deuxième partie de la somme théologique, c'est-à-dire dans la secunda secundae, hein, de la summa theologiae. Hein, donc là, vous avez par exemple les questions sur la paix, les questions sur la guerre, les questions sur la justice, les questions sur la prophétie, sur la fonction des religieux, etc. Et bon, voilà, si de temps en temps vous avez un doute et vous avez envie de regarder ça, il y a évidemment des éditions à la bibliothèque, mais il y a aussi des éditions aussi bien latines que traduites en français sur Internet, assez aisément trouvables. Hein. Ouais. Il y a un nom de site très joli qui s'appelle Docteur Angélique, hein, docteurangélique.com, enfin, délicieux, quoi, voilà. Docteurangélique.com. Bon. Alors, le premier traité, hein, le premier traité, donc, sur qu'est-ce que c'est le meilleur gouvernement, hein, l'ottimo governo. Alors, le premier chapitre du premier traité, qu'est necessario? Il governo delle cose umane e quale sia buono e quale sia cattivo governo. Alors, là, on est dans le... on est complètement dans le, la conformité avec les thèses aristotéliciennes et les thèses thomistes. Hein. Donc, nature radicalement sociable hein, de l'homme. Pourquoi cette mise en société ? Bien d'abord parce que aucun homme seul ne peut survivre. Hein ? Aucun homme seul ne peut survivre. Et si un homme peut survivre seul, c'est soit il est très proche de Dieu, c'est un saint, soit il est très proche des bêtes qui n'ont pas, alors que l'homme là, elle lume dell'intelletto, elle lume dello intelletto et la facultà del libero arbitrio. Vous savez qu'il donne un exemple pratiquement. Saint Jean-Baptiste, l'ermite, et là il donne San Paolo, primo eremita. Hein. Non, si vous... Saint Paul, dont la... ce Saint Paul, premier ermite, qui n'est pas le Saoul devenu Paul, hein, qui va permettre la diffusion chez les gentils du catholicisme, hein, qui est un autre. Donc un ermite qui s'est retiré au désert, hein, en même temps à peu près que l'autre qui lui dispute la palme du premier ermite, qui est Saint Antoine, hein, lui aussi dans le désert, mais Saint Antoine aurait reconnu, selon Jérôme, hein, qui fait la vie de Paul l'ermite, justement la primauté, la priorité de ce Paul. Hein, voilà. Et donc, à part ces gens qui sont si près de Dieu qu'ils n'ont pas besoin des autres, eh bien, les hommes qui vivent seuls, c'est qu'ils sont totalement, hein, totalement privato, privati della ragione. È come una bestia non si cura di veste, né di casa, né di cibi cotti e preparati, né di conversazione di uomini, ma va seguitando lo istinto della parte sensitiva, rimossa da sé ogni ragione. Hein? Voilà. Donc, comme les bêtes. Hein? Alors, comme les hommes, précisément, normalement, ne sont pas dans ces extrêmes, ne sont pas ni des proches de Dieu, ni des saints, ni des bêtes, ils ont besoin de... l'un a besoin de l'autre pour obtenir... Hein, obtenir un état, un fonctionnement qui permette à chacun de vivre. Hein. Alors, c'est vraiment une idée totalement aristotélicienne. C'est donc 1252B. Voilà. Alors, quelques passages qui vous montrent l'harmonie entre la thèse défendue par Savonarole et les thèses aristotéliciennes. Donc, je vous le lis dans une édition qui me paraît excellente, alors, sauf que, comme chez Paul Grec, on peut facilement me faire croire n'importe quoi, mais en tout cas, elle est faite selon des critères remarquables d'explicitation des choix, etc., qui est donc la nouvelle traduction GF Flammarion, faite par Pierre Pellegrin. Hein, je crois pouvoir conseiller, parce que, en tout cas, même s'il y a même s'il y a des sottises, tout est explicité, tout est expliqué, les choix sont expliqués, etc. Donc après, il doit faire comme tout le monde des erreurs, mais en tout cas, il annonce la couleur du sens de ses choix, etc. Ce qui, à mon avis, en gros, l'éthique que doit avoir, la déontologie que doit avoir un traducteur. Ouais. Alors, la communauté achevée, formée de plusieurs villages, est une cité, dès lors qu'elle a atteint le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire, complète. S'étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. Hein. Voilà. La vie heureuse, donc le bonheur, l'eudémonia, hein, mais qui est là dans le texte, dans le texte-là, évidemment. Pourquoi ? Eh bien, pour obtenir, dans un premier temps, pour obtenir les choses que les animaux ont spontanément et que nous, nous devons construire, hein, avec des arts et avec de la science, hein, pour que obtenir ce corps parfait de toutes les sciences et de tous les arts, hein, donc les connaissances et les arts au sens métier, hein, les activités pratiques, voilà. Et le but étant donc d'obtenir et de développer le bien commun, hein, et au-delà du bien commun, que les hommes puissent vivere insieme pacificamente e darsi alla virtù e conseguitare più facilmente la felicità eterna. Hein? Donc, vous voyez là, évidemment, permettre de vivre, donc, hein, constituer toutes les choses que l'homme doit se constituer, parce que sinon il est nu et faible. Et pour les créer, il a besoin d'être en groupe, en société. Les gens ont besoin donc que les uns fassent un travail, d'autres un autre, que les uns aient la chaîne, ça d'autres des arts, hein, donc des connaissances techniques et des réalisations techniques. Et à ce moment-là, ça permet à la communauté, à la société d'exister, et ça lui donne les formes de bonheur qui sont déjà présentes comme idée fondamentale chez Ariston, évidemment, sont développées selon les préceptes de la foi chrétienne dans les textes de Thomas d'Aquin ou de Savonarole. Hein, ouais. Alors, d'autres idées présentes, hein, sur lesquelles ça ne sera pas un intérêt théorique extrême, mais que donc cette idée que l'homme peut être le pire des animaux, hein, ou le meilleur des animaux, au sens animaux, là, vraiment au sens aristotélicien, de celui qui a le souffle divin, hein, celui qui a, comme c'est, elle est déjà présente, là, qui est très, très, très clairement donc comme l'homme peut être le meilleur, hein, la meilleure des créatures voulues par Dieu, hein, mais quand elle est senza legge, senza timore, eh bien, quand elle est donc senza legge, senza timore, eh bien, il peut être l'animal le plus méchant qui existe. Hein. Non è animale più cattivo dell'uomo che è senza legge. Voilà. C'est pratiquement la traduction d'Aristote, lui-même traduit par Guillaume de Morbecque, lui-même commenté par Thomas d'Aquin. Hein, là, vous avez donc d'où c'est dans Politique 1, livre 1, chapitre 2, et puis dans la référence qui vous permet de retrouver les textes d'Aristote, quelles que soient les éditions, parce que tout le monde suit cette édition de référence je crois, du 19e siècle, hein, 1253A. Hein, donc 1253A. De même, en effet, qu'un homme accompli est le meilleur des animaux. Hein, de même aussi, quand il a rompu avec loi et justice, est-il le pire de tous. Car la plus terrible des injustices, c'est celle qui a des armes. Or, l'homme naît pourvu d'armes en vue d'acquérir prudence et vertu dont il peut se servir à des fins absolument inverses. Voilà. C'est pourquoi il est le plus impie et le plus féroce quand il est sans vertu, et il est le pire des animaux dans ses dérèglements sexuels et gloutons. Vous avez les mêmes points qui sont développés dans le passage du premier chapitre du premier traité de Savonarole. Or, la vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté politique, et la justice démarque le juste de l'injuste. Voilà. Donc là, vous voyez, on est dans la... vraiment dans la cohérence avec la tradition aristotélicienne et thomiste. Alors, donc là, on va regarder un peu un petit bout de texte là du traité. Alors, voilà. Donc là, il va y avoir sur la question des bons gouvernements possibles. Des bons régimes possibles, eh bien, il va y avoir une réflexion qui va partir de l'orthodoxie thomiste et qui va arriver à une proposition, certes appuyée sur quelques éléments présents dans le De Regimine Principum, mais qui ne sont pas au cœur. Et évidemment, quelqu'un comme Savonarole, qui connaît aussi précisément les textes, et qui a passé une bonne partie de sa vie à les commenter pour éduquer ses frères, ne peut pas ignorer que, en énonçant ce qu'il va énoncer, il s'éloigne du fondement, hein, de la pensée thomiste. Il n'y a pas de doute. Alors, avant de lire le texte, une remarque. Hein, vous allez voir que le regimento e governo, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regimento est très peu présent dans le texte. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à aller regarder combien de fois il y est. Il y est trois fois, dont le titre. Alors c'est le regimen latin, hein, le regimen latin, qui tend plutôt. Hein, c'est pas une règle absolue, mais enfin, il tend plutôt à être la forme du gouvernement, hein, à désigner la forme du gouvernement. Plutôt que le gouvernement lui-même. Alors les deux fois où il apparaît dans le texte, enfin les deux fois en dehors du titre, hein, ça va dans ce sens-là, en tout cas pour... dans les deux fois où il l'emploie, donc Savonarole l'emploie plutôt dans ce sens-là, puisque la première fois, il parle de... qui est dans le traité numéro 1, le troisième chapitre, hein, et les deux fois d'ailleurs, hein, les deux autres fois il l'emploie, c'est dans traité numéro 1, troisième chapitre, 1, il dit... Firenze n'ha jamais potuto durare sotto il reggimento di uno principe. Et ensuite, un peu plus loin, le Florence, avendo preso antiquamente reggimento civile, no? Avendo preso antiquamente il reggimento civile. Donc, vous voyez, là, ça tend vraiment sur forme, hein? Régime au sens régimen, forme du gouvernement. Reggimento di uno principe, reggimento civile. Voilà. Alors, en revanche, governo est extrêmement récurrent comme terme. C'est dans la, je crois, c'est dans l'absolu, enfin, dans l'absolu, c'est le substantif le plus employé du texte. Le substantif le plus employé du texte. Ouais. Il est employé 152 fois, ce qui est beaucoup pour un petit texte comme ça. Hein. Et donc, ouais, merci. Merci. Alors, ma question, c'est qu'évidemment, parfois, du coup, cet emploi de gubernatio, hein, vous vous rappelez, l'origine, c'est donc, et l'image, hein, qui est d'ailleurs présente dans le texte, l'image du bateau qu'il faut diriger, qu'il faut conduire à bon port, etc., hein, qui est vraiment une image récurrente. Donc, celui qui tient le gouvernail, ceux qui tiennent le gouvernail, hein, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un governo civile, hein, donc, il tend à prendre, y compris une partie des sens qui devrait être mis sur... pourrait être mis sur un régime, sur un regimento, sur le régime latin et sur le regimento italien. C'est-à-dire qu'il y a des cas où il emploie governo, non pas comme groupe des personnes qui dirigent, hein, les gubernatoris, hein, les gubernatores, ceux qui tiennent le gouvernail, mais bien comme la forme de gouvernement qui fonctionne à Florence. Alors, et ça a quand même un effet, le fait que ça soit très systématiquement governo, hein, c'est que à tout moment, même la réflexion sur la forme du gouvernement s'incarne dans un moment spécifique, dans une activité spécifique, hein, dans cette activité de la direction, de la manœuvre du bateau, du gouvernail qui permet au bateau d'arriver ou pas à bon port. Voilà. Hein. C'est quand même une fonction, cette présence massive de governo. Hein. Ça indique en creux que, quand on vous disait tout à l'heure, il y a les données théoriques, la pensée théorique de la philosophie politique qui vient d'Aristote et de Thomas, et il y a l'histoire d'un moment spécifique, l'histoire de formes politiques spécifiques, etc. Ça indique quand même en creux que c'est bien ce second aspect qui est déterminant dans le traité. Hein. Et que le regimento, hein, est bien là un peu pour mémoire, enfin. Pour mémoire de la théorie thomiste, enfin. Là, c'est quand même un indice textuel fort, me semble-t-il. Bon, on y reviendra, hein, on y reviendra. D'autant que si on prend le De regno ad regem Cipri de Thomas d'Aquin, on peut observer exactement le contraire, c'est-à-dire une présence beaucoup plus grande de regimen que de gubernare, gubernatio, gubernatore. Voilà. Bon. Alors, les trois bons régimes possibles. Hein, les trois bons régimes possibles. È stato necessario costituire chi abbia cura del ben comune, chi abbia potestà sopra gli altri. No. Donc, cette idée-là du ben comune qui va lier dans tout le texte, alors là aussi c'est une terminologie extrêmement récurrente, c'est le ben vivere. Il ben vivere. Donc on est contraint, on a la nécessité de vivre en compagnie, de vivre en congrégation. Et cette nécessité se transforme en élément extrêmement positif, c'est-à-dire elle peut se transformer en ben vivere. Ben vivere, et souvent il y a, pas tout le temps, non, c'est pas dans tous les usages, il y a ben vivere tout court, mais il y a aussi ben vivere cristiano. C'est ce ben vivere cristiano qui va permettre d'obtenir le bene, bene, ou ben, là, en l'occurrence, ben comune, bene comune. Alors, pourquoi faut-il une potestà dans un regroupement humain? Eh bien, précisément parce que sinon, on n'obtiendra jamais quelque chose qui puisse être dit ben comune. Notez bien que cette terminologie est totalement là, orthodoxe à la tradition aristotélico-thomiste, mais qu'elle est orthodoxe à une autre tradition, qui est la tradition. Tradition du comune, parce que le comune, les comuni italiennes, et cette expérience-là des comuni italiennes, vient précisément du terme bene comune. Hein. Voilà, c'est la comune, et c'est ce que les habitants d'un lieu désignent comme étant de leurs possessions communes qui doivent défendre et faire fructifier. Hein? C'est ça la commune. Et alors là, il explicite très clairement dans le passage « Perché cercando ogni uomo particolare hein? » Chaque homme pris comme homme, chaque homme pris individuellement. Ogni uomo, cercando ogni uomo particolare, il proprio bene, se qualcuno non avesse cura del ben comune, non poteria stare la conversazione umana e tutto il mondo andrebbe in confusione. Alcuni uomini dunque convennero insieme di costituire un solo che avesse cura del ben comune al quale ognuno obbedisse. E tale governo fu dimandato regno e re colui che il governava. Alcuni altri, o per non poter convenire in uno, per parergli meglio così, convennero negli principali e migliori e più prudenti della comunità, volendo che tali governassino, distribuendo tra loro i magistrati in diversi tempi. E questo fu domandato governo degli ottimati. Donc, il faut une potestà, ça peut être un seul, c'est Voilà, royauté et roi. Ça peut être i principali e migliori e più prudenti, hein, les optimates, hein, optimati en italien, optimatis, ceux qui sont les ottimi, hein, optimi en latin. Migliori e più prudenti, donc ça gouverne les ottimati. Altri, donc troisième sorte, et là on est en plein dans la tripartition monarchie, aristocratie, politeia, hein, d'Aristote. Hein. Donc, la troisième, o per non potere, pardon, altri volsero che il governo rimanesse nelle mani di tutto il popolo, il quale avesse a distribuire i magistrati a chi gli paresse in diversi tempi. E questo fu chiamato governo civile, perché appartiene a tutti i cittadini. Bon, oui, donc là, ce qui est intéressant, parce que jamais ils n'emploient, c'est assez bizarre, hein, pourquoi ils n'emploient jamais, c'est des points sur lesquels il faudra qu'on revienne un peu plus en détail, mais ils n'emploient jamais governo popolare ou populare, hein, même s'il y a popolo et popoli relativement fréquemment, là c'est vraiment le gouvernement des citoyens, governo civile, il n'y a que ça comme dénomination. Hein. Il y a governo civile et comme façon de vivre pour faire que ce gouvernement civil fonctionne, eh bien, il y a le ben vivere cristiano. Ouais. Bon. Essendo dunque il governo della comunità trovato per avere cura del ben comune, ciò che gli uomini possano vivere insieme pacificamente e darsi alle virtù e conseguitare più facilmente la felicità eterna, quello governo è buono, è il quale con ogni diligenza cerca di mantenere e accrescere il ben comune e inducere gli uomini alla virtù e al ben vivere, hein? Voyez le lien, ben comune, ben vivere, hein? E massima al culto divino. E quello governo è cattivo, che lascia il ben comune e attende al suo bene particolare, non curando delle virtù degli uomini, né del ben vivere, se non quanto è utile al suo bene particolare. E tale governo si chiama tirannico. Sì che abbiamo visto la necessità del governo degli uomini, e quale è buono e quale è cattivo governo in generale. Alors jusque là on est totalement dans l'orthodoxie, hein, si ce n'est que cela est vrai in generale, hein, ou bien avec une autre formulation, assolutamente parlando. Et c'est là que il va tirer de, en fait, de la situation dans laquelle il est, hein, de l'analyse de la situation dans laquelle il est et dans laquelle est Florence, une conclusion quand même assez différente de celle qu'avait tirée Thomas d'Aquin dans le De Regno a Tregem Cipri. Assolutamente parlando, in generale, no? Il governo di uno, quando è buono, supera tutti gli altri buoni governi. E seria da istituire tale governo in ogni comunità, se il si potesse. C'est là que le principe de réalité intervient, non? Qui va donc bouleverser la règle générale, la règle qu'on peut énoncer absolument parlando, et qui n'est pas toujours vérifiable, hein, qui n'est pas toujours vérifiable. Alors, donc, ce qui serait absolument parfait partout, c'est que tutto il popolo concordemente facesse uno principe buono e giusto e prudente, al quale ognuno avessi ad obbedire. Là, il rappel, évidemment, ça va être très bien d'avoir un seul qui gouverne quand celui-ci est bon, c'est le meilleur des gouvernements, mais un seul qui gouverne quand celui qui gouverne est mauvais, c'est le pire des gouvernements. Pire des gouvernements. Thèse, là aussi, totalement thèse de Thomas d'Aquin, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Il dit ça tout aussi clairement sur cette idée-là. Simplement, Thomas d'Aquin en tire la conclusion que, au fond, même s'il n'est pas très bon, le 1 est quand même mieux que le plusieurs. Parce que, dit-il, certes, la tyrannie peut naître du fait que l'homme seul qui est à la tête du gouvernement, régime d'un seul, quand ce seul est mauvais, implique la tyrannie, mais le régime des optimates, si les optimates se révèlent non pas des optimates, mais un petit groupe de gens mauvais, qui ne pensent qu'à leur richesse, etc., à leur bien propre. Et donc, à ce moment-là, ça devient, vous savez, l'équivalent dans le pire du gouvernement des optimates, ça vient du gouvernement des oligarques. Alors là, c'est vraiment... Et puis, le gouvernement du peuple, pareil, quand le peuple devient un tyran, il fait des tyrannies encore pires que celles de l'un. Donc, le gouvernement de peu peut produire une tyrannie pire que la tyrannie d'un seul, et le gouvernement de beaucoup peut lui aussi devenir une tyrannie pire que la tyrannie d'un seul. Donc, autant rester dans la tyrannie d'un seul. Voilà. C'est vraiment très clairement dit par Thomas d'Aquin. Donc, c'est dans... Voilà, donne un ou deux exemples. Le gouvernement d'un seul, donc c'est dans De Regimini Principum, mais dans la partie écrite vraiment par Thomas d'Aquin, donc le premier livre, chapitre 6. Le gouvernement d'un seul, et là, c'est Regimen, est donc préférable à celui de plusieurs, bien que les deux soient suivis de dangers. Donc il y a les dangers pour les deux, le danger c'est la tyrannie, mais au fond il nous dit il faut davantage fuir les dangers qui proviennent du gouvernement de plusieurs que de ceux qui proviennent du gouvernement d'un seul. Donc voilà, Magis, donc la première citation c'était « Magis igitur ». Praeoptandum est unius regimen quam multorum, quam vix est utroque sequantur pericula. Vaut mieux choisir le regimen d'un seul, regimen unius, plutôt que regimen multorum, même si les deux ont des dangers en eux, qui sont ce danger de la dégénérescence et de la tyrannie. La tyrannie de beaucoup, de plusieurs, n'est pas meilleure. Et la deuxième citation dit même « Magis igitur sunt fugenda pericula quae proveniunt » Il faut donc fuir davantage les périls qui proviennent « ex gubernatione multorum », proviennent du gouvernement de beaucoup, de plusieurs, quam ex gubernatione unius, que du gouvernement d'un seul. vraiment, très clairement. Et bon, c'est tout le chapitre 6, c'est comme ça. Et le chapitre 7 explique que c'est un des points sur lesquels important pour toutes les réflexions ultérieures sur le tyrannicide, etc. Donc le chapitre, donc livre 1, chapitre 7 du Der Hegemony Preach, dit très clairement que il faut faire très attention s'il y a un tyran, se débarrasser de lui par la violence, vaut mieux attendre que Dieu s'en occupe. Hein, vaut mieux attendre que Dieu s'en occupe parce que le résultat de la décision qui consisterait à appliquer le tyrannicide, à tuer le tyran, peut provoquer bien plus de maux que de bien, et donc il vaut mieux laisser le tyran tel qu'il est et laisser Dieu s'occuper de lui dans sa vie terrestre ou dans sa vie après sa mort terrestre. Hein. De toute façon, il s'occupe de lui. Ouais. Il dit vraiment très clair. Alors, vous savez, c'est très clairement pas cette thèse-là qui est repris par Savonarole dans le passage. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Un, d'abord, première idée, c'est ce qui est le meilleur absolument n'est pas toujours bon. Hein, n'est pas toujours bon. Il donne l'exemple de l'état religieux, lo stato, il stato religioso, il quale in sé è ottimo stato, e niente di meno non è da imponere tale stato a tutti i cristiani. On ne pourrait pas, hein, on pourrait pas parce que ça provoquerait des troubles. Hein. Là, c'est vraiment depuis Paul, on a ça, hein, depuis saint Paul de Tarse. Hein. Truc. L'état religieux, le fait de ne pas avoir de sexualité, etc., c'est le meilleur état, mais on ne peut pas demander à tout le monde. Donc. Hein, et le risque serait de fare scissure nella chiesa. Donc il faut, dit-il, et là il introduit quelque chose qui est important, il faut introduire l'idée de la natura del popolo. Natura del popolo. Cette idée de la natura del popolo, on voit très rapidement qu'elle s'appuie à la fois sur une théorie, là aussi, qui vient de loin, hein, qui est une espèce de théorie du climat, donc, mais qu'elle s'appuie tout autant sur une autre raison, qui est nommée la consuetudine, hein, et c'est la consuetudine, qui dit-il, là aussi c'est une vieille, c'est de la vieille terminologie, hein, mais la consuetudine n'est rien d'autre dans son exposé que de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de Florence est devenue, en quelque sorte, la nature de Florence. Hein. Et je vous rappelle que les deux occurrences de Regimento, à part celle du titre, sont précisément des occurrences historicisées. Florence n'a jamais pu durer sotto il Regimento di uno et... Florence a choisi ab antiquo, hein, anticamente, il reggimento di molti, il reggimento civile. Hein, ça, c'est de l'histoire. Alors, très brièvement, les éléments sur la théorie des climats, c'est i popoli che sono ingegnosi e abbondano di sangue e sono audaci, non si possono facilmente reggere da uno se lui non li tiraneggia. perché continuamente per l'ingegno vanno macchinando insidie contro il principe e per la loro audacia facilmente le mettono in esecuzione, come si è visto sempre nella Italia, la quale sappiamo per la esperienza dei tempi passati sino al presente, che non ha mai potuto durare sotto il reggimento di uno principe. Parmi les plus ingénieux, parmi les plus ingénieux de tous les peuples d'Italie, le plus rusé dans toutes ces entreprises, animoso audacio, eh bien, c'est le popolo fiorentino. Ouais. Et alors, ça, autant le gouvernement d'un seul peut tenir, lorsque les gens ne sont pas ingegnosi, ou ne sont pas très abbondanti di sangue, donc voilà, ils sont pas prêts à tuer tout le monde rapidement, alors à ce moment-là, ça va très bien, le gouvernement d'un seul. Mais avec des gens comme les Italiens et comme les Florentins, le gouvernement d'un seul, comme il a affaire à des gens à la fois malins, etc., plein d'entendement, plein d'intellect, de compréhension des choses, et extrêmement, extrêmement rapide à sortir leur petit couteau à cerner les noix. Enfin bon, le prince, là où le roi, est obligé d'agir avec violence contre eux, donc d'agir comme un tyran. Il ne peut pas y avoir le gouvernement d'un seul qui ne soit pas un gouvernement tyrannique. Pour cette raison-là, l'autre raison étant la raison historique. Ora, il popolo fiorentino, avendo preso antiquamente il reggimento civile, ha in questo fatto tanta consuetudine che sarebbe difficile e quasi impossibile rimuoverli da tale governo. Et alors, que ce soit l'histoire, que ce soit l'histoire incarnée, cette consuétude, eh bien, le passage qui suit, elle explicite très, très, très clairement, même s'il a été, depuis des années, gouverné par des tyrans, etc., donc, ces gens-là, par astucia, con grande astucia, tyrannisaient, se comportaient en tyran, mais non lo cavando del suo naturale e della sua consuetudine, onde lasciavano la forma del governo nella città e i magistrati ordinari, avendo però l'occhio che in tali magistrati non entrassi se non chi era suo amico, no? Donc, cette consuétude est tellement forte, tellement nette, tout le monde doit en tenir compte, et que par ruse, mais aussi par ingegno, les cittadini qui ont usurpé le principato, eh bien, ont été obligés de laisser la forme du gouvernement de laisser i magistrati ordinari, en se contentant de faire entrer dans ces magistrati, de donner ces magistrati à leurs amis. Voilà. Donc, la forme du gouvernement doit être compatible avec l'histoire des cités, l'histoire des gens qui sont gouvernés. Et pour Florence, donc, la forme du gouvernement doit être compatible avec ce choix ancien, ce choix invétéré, ancestral, du choix du Reggimento Civile. Hein. Alors, d'ailleurs, l'origine, hein, l'origine du Consiglio et l'origine du Governo Civile, c'est bien l'histoire immédiate. Hein, l'histoire immédiate, on est en 98, donc 3 ans et demi auparavant, hein, essendo state le cose che sono state per la venuta del re di Francia, hein, retrouver cette césure épocale, hein, de la venuta ou la calata del re di Francia, non è dubbio ad alcuno che si è trovato in essa città in questi tempi a qualche giudizio che questa era l'ultima sua distruzione, no? Ma il Consiglio di Governo Civile, il quale fu in lei fondato non da uomini ma da Dio, è stato strumento della virtù divina mediante le orazioni degli buoni uomini e donne che si trovano in lei a mantenerla nella sua libertà. E certo, chi non ha totalmente per i suoi peccati perso il giudizio naturale, considerando in quanti pericoli è stata da 3 anni in qua, non può negare che non sia stata governata e conservata da Dio. Non c'è. C'est là-dessus que se termine, hein, c'est ce sujet de ce passage. Hein, vous voyez que là, il y a vraiment torsion, hein, de l'orthodoxie thomiste, hein, et la mise en place, ça on verra donc, assez à partir de la semaine prochaine dans le traité 2 et dans le traité 3, la mise en place non plus de la tripartition avec ces trois dangers, hein, la tripartition des trois formes de gouvernement d'un seul, de plusieurs et de beaucoup, avec chacun la possibilité de sa dégénérescence dans une mauvaise forme, hein, donc les 6 formes de gouvernement de la tradition aristotélicienne. Et que là, on va avoir une bipartition, tout le bien d'un côté, tout le mal de l'autre. Hein, là, au terme du premier traité, on est arrivé à une conclusion. Nella città di Firenze, il governo civile è ottimo, benché in sé non sia ottimo, e il governo di uno, benché in sé sia ottimo, non è però buono, nonché ottimo, al popolo fiorentino. Hein. Déjà, alors ces possibilités étaient présentes, hein, cette possibilité-là, elle est présente dans le Deregno André Gem Cipri. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit la possibilité centrale de l'analyse thomiste, hein, loin de là. Hein. Et surtout quand on va aboutir à ce à quoi on va aboutir au terme du traité, qui va être tout le bien d'un côté, hein, ce conseil voulu par Dieu, ce grand conseil voulu par Dieu, ce governo civile, hein, et ce concilio voulu tous deux par Dieu, et de l'autre, tout le mal, le gouvernement d'un seul, qui sera forcément un gouvernement tyrannique. Alors là, on aura évidemment un point d'arrivée extrêmement différent, hein, de la théorie politique de départ, qui est celle de la tradition dans laquelle Savonarole se place, et donc c'est l'analyse des 2 autres Trattato II, Trattato III, que nous ferons la semaine prochaine.